Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Salut les extraterriens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on est avec Victor Davier. C'est vraiment un snowboarder qui détonne avec un esprit très rock'n'roll. J'espère que vous allez adorer. Il est passé par la casse compétition en halfpipe, mais il s'est très vite dirigé vers une autre carrière dans l'industrie du film, du snowboard, puisqu'il a réalisé et été acteur dans de nombreux films et a même produit sa propre web-série qui s'appelle Trip Roulette et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez la voir, moi je me suis régalé. J'avais très envie de comprendre avec lui quelles étaient les recettes pour faire un bon film et comment tirer son épingle du jeu dans cette industrie aussi difficile que celle du film de sport. Et vous allez voir, j'ai énormément appris, il nous a fait une véritable masterclass, ça devrait vous intéresser, moi je me suis régalé. On a aussi beaucoup parlé d'une histoire de fou avec l'équipe de snowboard afghane qui l'a aidé à rapatrier en France lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir en 2019. Vous allez voir, c'est une histoire qu'on peut raconter nulle part ailleurs, c'est une histoire rocambolesque. Bravo à Victor pour ce qu'il a fait et pour toute l'équipe, toutes les personnes qui lui ont apporté du soutien dans cette histoire. Je vous en dis pas plus, je vous spoile pas, allez écouter. Et enfin, Victor, c'est vraiment un athlète qui a envie de transmettre et il a créé un événement qui cartonne, qui s'appelle les Safety Shred Days et en fait qui forme les riders à être en sécurité en haute montagne. Et du coup, je lui ai demandé un peu ses astuces pour sortir d'une avalanche, comment se secourir tout simplement. Donc, je sais pas si ça vous sera utile dans votre quotidien. Moi, sûrement pas. Mais au moins, on pourra faire les malins lors de dîner et on pourra dire qu'on sait secourir des gens. En tout cas, voilà, c'est un événement qui marche très bien, qui a lieu tous les hivers et que je recommande. Mais je vais vous laisser avec Victor et je vais arrêter de vous embêter et de dire des bêtises. Je vous souhaite un très bon épisode. Ciao. Salut Victor. Ça va ?
Salut. Formidable.
T'as l'air serein.
Plaisir d'être là.
je me demande même si t'as pas bu une petite goutte de Genépi avant de venir.
Ça pourrait parce que je suis un peu comme Astérix. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Okay. Ah non, Obélix, pardon.
On ne sait plus lequel des deux. Ok. Bon, on va parler un petit peu Génépi tout à l'heure parce que effectivement c'est une passion de famille et c'est un projet que t'as à côté du snowboard. Je sais qu'on va parler aussi, tu vois, de sécurité. On va parler d'organisation d'événements comme tu l'as fait. On va parler de cette folle histoire, effectivement, avec l'équipe afghane. Je vais pas spoiler les auditeurs. Mais avant, je t'ai dit, il y a une question traditionnelle. C'est comme ça que tous les invités sont passés sur le podcast. C'est quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, premier souvenir de sport, ça remonte à il y a un petit bout de temps. Et je dirais la station de ski de Réalon. Donc, la station de ski de Réalon, c'est une mini station au-dessus du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. C'est là où j'ai commencé le ski, puis le snowboard. Et dans les premiers souvenirs, voilà, c'est mes premiers souvenirs de glisse où on était avec les copains en chasse-neige avec des vieilles One Piece à fond, à faire du chasse-neige, etc. Et je me souviens un jour, j'étais sur le téléski, impossible de me retenir de pisser. Et ça, c'est un des moments les plus marquants de ma vie où, bah voilà, je me pisse dans la One Piece et c'était horrible. C'était vraiment horrible et ça, c'était un des plus, les moments les plus marquants en montagne, les plus traumatisants. Et après, le deuxième, c'est le jour où j'ai réussi à graber ma planche, donc à toucher ma planche pour la première fois. Et j'avais l'impression de vivre la chose en slow motion où voilà, je saute, j'attrape ma planche et voilà, j'avais fait comme les pros. Waouh, j'avais réussi à toucher ma planche. Quoi.
Okay.
Et ça, c'était vraiment le moment, les premiers moments marquants de glisse, je dirais.
C'est les deux à quel âge là? C'était la même année? Je sais pas. Non.
Là non, 8 ans pour le snowboard et 5 max pour le ski quoi. Mais c'était, tout était dans cette petite station et on se marrait bien.
Ouais. Mais en vrai, ne pas être capable de se retenir dans sa combi, je crois que ça arrive à tous les gosses, non? On n'ose pas le dire, mais...
C'est arrivé peut-être à beaucoup, mais moi en tout cas, ça m'avait traumatisé.
Ah mais moi c'est sûr, j'ai un souvenir aussi, ouais. je pense que je devais avoir 3-4 ans sur les skis et ça m'avait rendu furieux mon père quoi, qui avait dû me ramener, qui était ultra vénère.
Belle galère. Donc voilà, ça c'est les premiers. Et après un autre souvenir marquant, c'est mon premier vrai voyage pour le snowboard. On a été en Californie pour faire du snowboard dans les plus beaux snowparks à Mammoth Mountain. Et là voilà, j'avais 16 ans, je suis parti tout seul avec des potes, j'avais eu l'autorisation, enfin, je m'étais donné l'autorisation pour rater un mois de cours en décembre et voilà, on avait été s'entraîner à quelques potes en Californie et là, c'était la découverte de l'Amérique et ça, c'était complètement fou. Ouais. J'étais bien sûr avec des plus vieux avec moi, donc j'étais le plus jeune de la bande et ils m'avaient bien traîné. On s'habillait avec des habits américains parce qu'on était trop fans. Mmh. Voilà, on voyait tous nos idoles sur le snowpark, on a fini à Hollywood, à faire des soirées alors que j'avais que 16 ans. Enfin bref, ça c'était un gros moment aussi.
Ok, un peu rock'n'roll life quoi.
Ouais, c'était rock'n'roll life et c'est le premier trip qui était le premier d'une longue série après. Bien marrant.
Ok, ça doit donner envie. Après, une fois que t'as fait ce genre de trip, tu te dis que t'as envie d'en refaire un max et que t'as envie que toute la vie soit comme ça, non?
Et voilà, 17 ans se sont passés depuis ce premier trip et j'ai pas arrêté quoi. Je crois que je suis accro.
Tu m'étonnes. Tu dis que tu t'étais donné le droit de partir un mois, c'est parce que papa et maman, ils étaient pas hyper fans de ce genre de projet?
Non, au contraire. Donc j'ai été principalement élevé par ma mère et ma mère m'a toujours soutenu dans mes choix. Et là, j'avais cette opportunité de partir avec mes bons potes, avec des meilleurs snowboarders que moi pour aller m'entraîner sur mon trip de rêve, quoi, aller faire du snowboard dans les snowparks de Californie, à Mammoth Mountain. On voyait que ça dans les vidéos, quoi, à l'époque. Et donc, j'étais en cursus sport-études au lycée à l'époque.
Ok.
Et voilà, on avait déjà pas cours l'hiver. Donc, on était déjà... on avait déjà quand même des créneaux aménagés. Et il fallait rater encore un mois de décembre. Et on avait sorti une vieille excuse médicale pour que je n'aille pas au lycée un mois de plus. Et du coup, ouais, je me souviens, ça s'était su parce que voilà, j'étais en Californie et que ça s'était vite su et ça avait fait un peu de bruit, je me souviens, au lycée. Mais donc non, mes parents cautionnaient et ça, c'était beau.
C'est pas le cas de tout le monde, hein. T'es chanceux, hein, vraiment. Trop cool. Et à ce moment-là, peut déjà plus ou moins toucher du doigt le fait de vivre du snow ou c'est encore très loin. Et c'est ok, encore dans une phase de progression, d'entraînement, de suivre les grands. Et c'est aussi de l'investissement quand même, tu vois.
Ouais. J'ai toujours poursuivi mes rêves, je dirais. Et là, à l'âge de 16 ans, j'ai mes premiers sponsors.
Ok.
Je vais en Californie, je me paye mes trips, j'ai un peu de soutien financier de la part de mes sponsors. Mais voilà, c'est vraiment le début. Je commence à avoir eu... j'ai eu quelques petits résultats en compétition, champion de France.
Ouais.
Voilà, c'est le moment où je fais mes armes, je m'entraîne à fond pour ensuite essayer de faire des meilleurs résultats.
Ok.
Voilà.
Et tu faisais quelle discipline du snowboard à l'époque ?
Donc, je faisais du halfpipe,
ouais,
du big air, du slopestyle.
Ok.
Et donc, voilà, moi j'ai un background très freestyle à la base. Même si on a grandi dans les montagnes, j'étais vraiment fan donc de tout ce qui est figure. Et donc très inspiré par les légendes de mon milieu, par les vidéos. Voilà, nous le circuit des vidéos techniques, c'est vraiment énorme. Et en tout cas, on suit beaucoup nous les snowboarders et donc j'étais très inspiré par ça.
OK. C'est je me rends pas compte, il y a 12 ans en arrière, il y a déjà Shaun White, il y a déjà
Shaun White, c'est le plein boom Shaun White.
C'est le plein boom. Ouais. Ah, OK.
Shaun White, j'étais assez fan de Shaun White à l'époque. Comme tous les jeunes quoi, il gagnait tout, il était malgré son jeune âge très fort.
Puis un style atypique aussi un peu il avait ce côté un peu rouquin, les cheveux longs déjà donc il avait une dégaine un peu ouais. Tu retenais et j'avais l'impression aussi qu'il y avait une... Quand il saute, tu vois qu'il y a un style qui est assez unique. Je sais pas comment toi tu le vois.
Il y a un style unique, c'est pas le meilleur style du tout. C'est pas une personne qui a fait de très belles choses pour le snowboard, mais c'est pas quelqu'un qui fait vraiment partie de la communauté snowboard. Il a vite pris cette direction rockstar. Hein,
ouais,
c'est parce qu'il a tellement tout gagné jeune, en skate, en snowboard. Dans toute discipline, il a vraiment tout gagné. Hein. Que voilà, il a vite pris cette direction rockstar qui n'a pas été très très appréciée dans le milieu du snowboard, je dirais.
Ok. Ouais. Ok. Et quoi, t'as entendu des gens qui l'appréciaient pas trop ?
Ouais, Non, il fait pas l'unanimité, c'est sûr.
Ok. C'est marrant comme quoi tu peux être le champion, on va dire en titre entre guillemets et ne pas faire l'unanimité quoi.
C'est... Ouais, mais c'est pas sa personnalité, c'est ses priorités. Voilà, c'est quelqu'un qui est sympa. On a fait de la compétition ensemble, mais c'est pas, je dirais que c'est pas la personne qui a le plus investi pour la communauté du snowboard, à proprement dit.
Ouais, il a servi beaucoup ses propres intérêts.
Exactement.
Ok, mais bon, quand même source d'inspiration au début.
Moi, j'étais fan.
Au tout début.
J'avais son pro modèle de planche, etc.
Ok.
Donc ouais, j'étais grand fan.
C'est qui les autres gros snowboarders que tu suivais ?
Alors, ça va être des noms peut-être moins connus du grand public, mais qui sont très respectés dans ce milieu, qui ont su développer un style de snowboard très reconnaissable. Là, je pense à des riders comme Nicolas Müller, Gigi Ruff. Mikael Beng, Kazuhiro Kokubo, Jack Bovelt. Voilà. Je sais pas si ça vous parle trop.
Les puristes reconnaîtront.
Les puristes reconnaîtront. Ouais.
Je mettrai les petits liens dans la description de l'épisode pour ceux qui sont allés curieux d'aller voir un peu le style. Donc, ouais, ça nous replonge. Ouais, t'as 16, 17 ans. Tu peux quasiment vivre de. Enfin, en tout cas, tes premiers sponsors et tout. Les sponsors, à l'époque, c'est entièrement lié aux résultats que tu as en compète ou commence déjà à y avoir un peu une vague, un peu film, réseaux sociaux, image. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est ça le plus important. Mais...
Au début, c'était très compétition et c'est comme ça qu'on s'est fait repérer et que maintenant, c'est encore le cas. Hein, les meilleurs snowboarders se font repérer par la compétition. Sauf exception par les réseaux sociaux désormais et la vidéo. Mais à la base, ouais, moi, je faisais mes compétitions, je suivais les circuits Et j'étais avec, avec mes potes, on voyageait, on faisait les compétitions. Ça marchait, tant mieux. Ça marchait pas, bah, on faisait quand même les soirées de fin, c'était sympa. Et voilà, enfin, on était tous dans un rythme qui était assez agréable. Et moi, j'ai réalisé que, bah, que ça me convenait, mais par habitude, j'étais, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas le meilleur. Et j'ai vite réalisé que la compétition me correspondait un petit peu moins. Et il y a mes sponsors qui m'ont demandé de filmer pour une première vidéo promotionnelle. Et donc là, ça a été un peu le déclic où je me suis dit, ah, on peut faire autre chose du snowboard et ça, ça me correspond mieux. Et donc, c'était toute la partie vidéo. Ouais. Donc, être acteur dans des vidéos de snowboard, hein, on pourrait même dire cascadeur dans des vidéos de snowboard pour représenter des marques. Et donc là, ça me correspondait mieux dans le sens où tu es en montagne, donc en hors-piste. Tu vas chercher les meilleures conditions de neige sur les plus belles montagnes pour te pousser, toi. C'est-à-dire que tu es en montagne devant des photographes, des caméramans, et tu fais la compétition avec toi-même pour offrir le snowboard le plus technique, le plus esthétique. Et donc, c'est vraiment ça qui est... Là, je me suis vraiment découvert dans ma pratique du snowboard.
Ouais.
Et c'est là que la transition compétition-film s'est fait assez naturellement. Et on était toute une bande de copains à être dans cette même mouvance. Et là, on a passé des moments incroyables, quoi.
OK.
Et je fais encore quelques compétitions assez exceptionnellement, mais ça me manque pas beaucoup.
OK. C'est, est-ce que c'est aussi un peu le, comment dire, le fait que le milieu du snow, tu sais, se professionnalise vachement, ça devient un peu sérieux, il y a de plus en plus de compètes, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a une certaine mentalité aussi peut-être qui change, non?
Je crois que le cœur ne change pas trop.
Ok.
Le niveau a énormément augmenté, hein.
Ouais.
Par exemple, voilà, le niveau évolue, mais aussi avec les infrastructures. C'est-à-dire maintenant, il y a des super airbags pour s'entraîner à faire des figures, etc. Là, on y va de temps en temps. C'est vraiment des beaux outils qui font que le niveau a bien augmenté. Il y a peut-être un peu moins d'argent dans le milieu de la compétition aussi, qui font que bah il y a des événements un peu plus. Enfin, à l'époque, il y avait vraiment des gros événements qui étaient impressionnants, qui étaient très bien médiatisés. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé.
Okay.
Donc, c'est peut-être aussi un peu moins excitant.
Tu penses aux X Games, par exemple ou...
X Games, on commence à avoir l'habitude, mais avant, il y a des événements comme le RN Style ou des événements au Japon qui étaient très, très gros et qui motivaient les gens à regarder.
Ouais.
Et, okay. Et nous, à faire ces compétitions.
Bien sûr.
et donc, voilà, moi, j'ai choisi cette voie sur la vidéo où... Là, je me suis vraiment découvert et ça fait maintenant au moins une dizaine d'années et qu'on traîne dans les montagnes à faire des belles images et là, on se marre bien.
Ok, tu m'étonnes. Et comment ça se passe, tu vois, entre... Est-ce que, tu vois, on te file un budget... Enfin, on te file, non. on te fait confiance pour un budget et c'est à toi de créer un peu ton équipe, de créer le voyage, le trip. Est-ce que c'est à toi de venir avec un concept créatif, tu vois? Tu disais, je fais le cascadeur, donc j'imagine que t'as peut-être pas la main sur toute la DA, tu vois? C'est comment ça s'articule un petit peu? Si on prend le point de vue un peu... réalisateur de film, tu vois.
Ok, donc là, on rentre un peu dans le côté plus business de tout secteur des films. Mais je dirais qu'il y a trois projets différents. Déjà, il y a les films promotionnels de marque, où là, donc, t'es clairement acteur dans un film où une marque te demande, un Artérix, un Salomon te demande, bah, on veut que t'ailles faire tel type d'image sur telle montagne avec tel caméraman. Tu seras dans tel hôtel, tu manges tel petit déj et c'est parti, quoi.
Okay.
Donc, il faut savoir que dans ce milieu, c'est que des gens super sympas et on est tous copains.
Ouais.
Hein, y a pas vraiment de mauvaises personnes à ma connaissance. Je suis peut-être un peu naïf, mais en tout cas, moi, j'ai que des copains dans ce milieu. Donc, voilà. Là, on n'a pas grand-chose à faire en tant que snowboarder, mis à part montrer son snowboard au meilleur niveau.
Et du coup, là, c'est pas toi qui choisis de l'équipe, mais t'es encadré, t'es accompagné.
Ouais. Là, on est accompagné.
Ok.
Voilà. Ensuite, il y a les productions de vidéos privées, où là, il y a des grosses productions privées de films qui ont une grosse renommée. des films comme Absinthe, Transworld, Pirate, Almofilm. Voilà. Ça, c'est des productions privées où les marques payent pour que tu apparaisses dans ces films. Et là, pareil, c'est quand même la production qui encadre ces films. Voilà, donc là, c'est normalement, c'est plutôt des films techniques où on filme toute l'année pour un concentré de 3 minutes d'image où on présente son meilleur snowboard et ça s'appelle des vidéoparts. Et ça, c'est très respecté dans le milieu du skate, du snowboard, c'est un peu les mêmes codes.
Okay.
Et ensuite, il y a le troisième projet qui est maintenant de plus en plus courant où les athlètes sont désormais des couteaux suisses et sont amenés à faire leur propre projet. Et donc là, sont commerciaux, producteurs, réalisateurs, community managers de leur projet, quoi.
Ok.
Et ça, c'est le cas désormais pour moi, où j'ai monté deux web-séries. Donc, une première qui s'appelle Tripoulette, qui est un mix d'aventure, de snowboard et d'écologie. Et beaucoup de conneries. Ça fait pas la pluie. Et la deuxième qui est DVD Videos pour Davier Victor Digital Videos, où là, c'est des formats courts où on fait des collaborations avec des artistes ou d'autres snowboarders pour proposer des clips un peu uniques avec à chaque fois un concept qu'on essaye de pousser.
Ok.
Voilà.
Ok.
Donc, je me suis retrouvé maintenant dans cette position. On est beaucoup à l'être. C'est beaucoup plus de travail, mais créativement, c'est super intéressant.
Ouais, c'est les projets que tu maîtrises, quoi.
C'est vraiment à chaque fois toute une petite entreprise. Hein. Voilà, il faut savoir faire tout, quoi.
Ok. Et du coup, j'imagine que ouais, ça nécessite d'apprendre beaucoup d'autres compétences, d'être un peu plus à risque aussi, mais peut-être que du coup, tu as plus de liberté en échange de ça.
Plus de liberté, mais plus de travail.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Donc, moi, je sais que j'aime bien cette position. Voilà, de maîtriser son contenu, c'est quand même agréable. Et surtout, voilà, j'ai la chance en tout cas d'avoir des partenaires qui me laisse un peu carte blanche sur ce que j'ai envie de faire, donc c'est génial.
Ok. Et donc là, ouais, c'est toi qui viens avec tes concepts, avec potentiellement un budget de ce que tu aimerais faire pour réaliser ce concept-là, et c'est eux qui financent, quoi.
Exactement. Okay.
Et est-ce que... dernière question sur le sujet, parce que ça, bon, je pourrais te poser des questions pendant des heures, parce que ça me passionne, vu que là, nous, on est en train de monter une agence de production vidéo, tu vois. Alors, on est plus, effectivement, côté exécutant, on va dire, un peu des marques et des sponsors. Mais est-ce qu'il y a les festivals du film, tu vois, il y en a beaucoup, ils sont hyper importants pour vous. C'est quoi, c'est de la visibilité, ça, ou ça peut être aussi ça fait partie intégrante du modèle économique, tu vois, d'être présent sur ces grands festivals de films.
Ils sont super importants. C'est ces moments-là où la communauté, les pratiquants se rassemblent. Et c'est clairement à ce moment-là où on montre nos films.
Ouais. Ok.
Donc c'est à chaque fois un bon moment et c'est un plaisir d'échanger avec les gens et de montrer ce qu'on a réalisé.
Ok.
Donc c'est selon moi super important. Et c'est un peu les seuls moments où on sort de nos montagnes aussi pour voilà,
côtoyer
les gens, voilà, boire le Genépi qu'on a fait en montagne, voilà, il faut bien écouler les stocks, quoi.
En tout cas, ça doit être de bonnes fêtes, ça j'en doute pas. Mais ouais, du coup, c'est surtout un moment pour montrer les films et c'est pour les diffuser et pour être là, quoi. Et c'est compliqué d'être dans ces festivals de films.
Ça dépend les festivals. Il faut savoir que voilà, il y a différents types de festivals. Il faut correspondre au style du festival. Il faut être dans les temps des rendus. Voilà, il y a... Et après, il faut être dans les petits papiers, je pense.
Ouais,
c'est souvent comme ça aussi.
Ok, ouais. Ok, hyper intéressant.
Mais en général, si tu fais un film magnifique et que tu as un bon teaser... il y a normalement pas mal de résultats et les gens sont intéressés pour voir le film, quoi.
Ouais, bien sûr. Et du coup, ils se déplacent et du coup, ok, hyper intéressant. Merci de partager tout ça.
C'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut savoir que dans le snowboard, il y a vraiment deux secteurs. Le secteur de la compétition.
Ouais.
Et le secteur des films.
Artistiques.
Et le secteur de tout ce qui est film, technique, est presque plus respecté que tout le secteur compétition. Et il y a énormément de compétiteurs qui ne souhaitent que de faire la, que de transvaser vers le film. Et souvent, les meilleurs snowboarders sortent de la compétition et ils ont le bagage technique et vont vers les films.
Ok. Voilà.
Et tout le monde est quand même vraiment influencé par ces films qui font partie de la culture, qui définissent et qui influent sur les styles de chacun.
Ok.
Il faut savoir que le style dans le skate, le surf, le snowboard, tous ces sports de planche, c'est quelque chose qui définit chaque rider, chaque athlète. Et je vois ça un peu comme un tableau. Chacun a ses tableaux préférés qui l'attirent. On n'aura sûrement pas les mêmes choix de rider parce que tout simplement on voit ça comme un tableau. Moi je préfère le bleu, je préfère telle illustration. Voilà, donc je vois ça vraiment comme ça. Chacun a ses riders favoris.
Ouais, c'est les sources d'inspiration pour les plus jeunes ou pour les riders encore en progression. Et ouais. Ok. Et imaginons, je suis un gamin de 18 ans, là, je suis dans le snowboard compétition. Et je te dis, écoute, Victor, j'ai envie de passer côté film et tout. Ce serait quoi le conseil que tu me donnerais pour faire cette espèce de transition que toi, tu as réussi par les opportunités, si je comprends bien.
Ouais.
Mais pour bien faire cette transition, qu'est-ce que tu me recommanderais ?
Fais-le avec passion. Fais du snowboard. Constitue une équipe. Je pense qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, tout le monde est seul dans son coin à développer son image. Je pense que la force d'une équipe est bien plus importante. Nous, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que la force d'une équipe, se rassembler, se filmer, constituer voilà tout un petit une petite équipe de prod derrière une équipe de snowboarders, c'est assez intéressant, et progresser ensemble. Parce que si tu fais les choses dans ton coin, déjà tu vas avoir besoin de beaucoup de budget pour payer un filmeur, un monteur. Et alors que si c'est dilué par une bande de 10 copains, je pense que ça passe beaucoup mieux et ça a une plus grosse force.
Ok. Voilà.
Mais surtout, la passion.
Ouais, bien sûr. Bah, et j'imagine que les 10 copains, ils raillent de tous, quoi.
Ah bah oui. Ça c'est le but, hein. Mais ouais. Voilà, se rassembler, je pense que ce serait la force pour un jeune de 18 ans qui commencerait.
Ok, ouais, s'entourer et avoir des gens avec qui commencer à bosser.
Et après, il en faut quand même un professionnel dans la bande qui vende le projet.
C'est toi ?
Moi, ça pourrait être moi.
Ok.
Qui vende le projet aux marques et qui, voilà, rassemble un petit budget pour faire un premier film. Et après, voilà, la maîtrise, je pense, des réseaux sociaux, à l'âge de 18 ans, on l'a directement, donc
maintenant,
pas besoin d'apprendre ça.
Ouais, c'est sûr. Ok. Hyper intéressant. Et il y a qui, il faut quelles compétences dans une équipe, j'imagine? Il faut un cadreur, t'as un monteur,
En général, il faut un bon caméraman. Il faut savoir que être un caméraman en hors piste, en snowboard, c'est quand même des sacrées missions.
Ouais.
T'as un sac énorme avec moi, un c'est trépied ça. Moi, j'ai énorme.
J'ai l'impression que les gars...
Tu prends des risques, nos caméramans, on les amène dans des missions pas possibles. Donc, il faut être quand même accroché pour avoir un copain filmeur accroché.
Ok.
Et souvent, ils le font quelques années. Après, ils demandent aussi un bon chèque.
Ouais, bien sûr. J'imagine que c'est une super compétence. Ouais.
Mais il faut quand même être en forme pour être, et avoir quelques compétences en snowboard ou en ski pour être filmeur comme ça. Et ensuite, idéalement, il est monteur. Donc voilà, il ferait le film. Parce que c'est toujours plus simple quand le monteur connaît ses images.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Et après, on est souvent entouré de photographes aussi.
Ok. Voilà. Pour faire des shoots en plus. Pour
faire des
promotion.
Shoots en plus, pour avoir des parutions dans les magazines, les réseaux sociaux, potentiellement vendre des images aux marques aussi qui soutiennent chaque athlète, etc.
Ok. Ouais, donc il n'y a pas besoin d'être 10 000, mais il faut être très bon.
Ouais,
ce que tu fais.
C'est vrai que c'est là, tu m'en parles, je réalise que c'est vraiment une petite industrie à part. Moi, j'ai vraiment le nez dedans, donc voilà. Mais là, de répondre à ta question, c'est vrai que c'est une industrie un peu déconnectée, je dirais, par rapport à certains autres sports. Voilà, on est à fond dans nos petites productions. Et
tu dirais
c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Tu dirais qu'il y a combien de gars ou de femmes, tu vois, qui sont aujourd'hui capables de bosser sur un projet méga ambitieux que tu peux avoir?
Déjà, combien en vivent en France, du snowboard? Dans les compétiteurs, allez, ils ont tous fait de la vidéo, hein, les compétiteurs. Mais on parle de Victor Delerue, Marion Herty. Allez, il nous reste plus ou moins deux compétiteurs. À l'heure actuelle qui vivent du snowboard et qui font à la fois de la vidéo et après on doit être 7-8 à vivre donc de tout ce côté vidéo.
Ouais, donc ouais. Ça et derrière OK, donc ça fait ouais, hyper
et
peu
et sachant c'est... qu'en France, je pense que on est sur une belle génération. Voilà.
Ouais.
Donc on est sur une belle génération où
et des
on a tous des beaux profils,
et qui
les marques sont présentes. Et donc ça se passe bien pour nous, quoi.
Ouais.
Et on est issus quasiment tous de la même bande de potes.
En fait, c'est la mafia.
C'est
ils le
la
disent
mafia.
Pas. Ils se connaissent tous.
Non, il y en a quelques-uns qui sont plus vieux, comme Mathieu Crépel, Xavier Delerue.
Ouais. Ouais, de toute façon, vous êtes tous rencontrés sur le circuit, en fait. C'est comme ça que ça se passe, non?
C'est un petit milieu et assez sympa. Donc, okay. Sur chaque événement, on se croise en général.
Et quand est-ce qu'on fait la bringue?
La bringue, sachant qu'on traîne en montagne, on peut pas la faire quotidiennement. Ça, c'est l'époque des snowboarders vraiment trash. C'est plus vraiment
c'est
comme
fini.
Ça.
Ouais.
Ou en tout cas, tu le fais une fois, t'as vite compris la douloureuse le lendemain, quoi.
Bien sûr.
Donc non, il y a quand même vraiment des beaux événements festifs, mais ça reste des exceptions. C'est-à-dire qu'on va être en montagne pendant de longs mois. Par contre, quand on se rassemble tous autour d'un bar, là, ça explose. Mais voilà, je dirais que c'est rare, mais ça explose bien.
Okay, ok.
En tout cas, on se marre bien.
Ouais, j'imagine, ça donne envie. J'étais avec Kevin Roland il y a pas très longtemps, mais je pense que c'était pas le plus gros bringueur, tu vois, côté ski.
Il est bon déconneur. Hein.
Il déconne bien. Ça, c'est sûr qu'il a la vanne facile. Je pense il se cache bien. Mais je sais pas, je l'imagine pas debout sur le bar. Pas encore. j'ai demandé, hein, j'essaie de lui tirer les verres.
Il a arrêté la compétition. Là, il se découvre une nouvelle carrière, peut-être.
Ouais, il fait de l'apnée. Il fait de l'apnée, d'ailleurs.
On se connaît bien.
Mais ouais, et puis lui, ouais, effectivement, il a fait aussi full cette transition, un peu comme tu l'as décrit. J'ai envie que tu me parles de cette rencontre avec l'équipe Hagan.
Ouais. Donc, ça va, ça s'envoie bien, parce que du coup, j'ai fait 10 ans de films de snowboard, principalement techniques, principalement avec des productions privées où voilà, chaque année je devais montrer mon meilleur snowboard. Et une année on me propose de partir au Pakistan avec une association qui s'appelle Zom Connection, montée par des guides de Chamonix dont Pika Eri, qui est une légende du freeride de Chamonix que je connaissais pas très bien. Il me dit voilà Victor, on cherche un snowboarder pour venir avec nous au Pakistan pour enseigner le snowboard sur place. Le but de l'asso, c'est de récolter un maximum de matériel de sport d'hiver, de l'envoyer au Pakistan et le distribuer localement et de former les jeunes au ski, au snowboard, au hockey, etc.
Okay.
Au ski de fond. Voilà.
Déjà un projet culotté quand même.
Je me dis, bah écoute, je vous connais pas trop, mais bon, sacré luron de partir avec des guides, des alpinistes aussi. Parce qu'on était avec Elias Milleriou, Mathieu Ménadier. Voilà, une sacrée bande. Et je les connaissais pas, je me dis allez, trip différent, allons-y gaiement. Et donc je me retrouve catapulté au Pakistan avec cette équipe à distribuer le matériel dans différentes régions et à apprendre aux communautés locales à faire du snowboard. Donc c'est plus du tout pareil, quoi. T'es plus avec tes potes à te pousser tous les jours sur un snowboard. Non, demain, Victor, tu dois apprendre à faire du snowboard à ces petites Pakistanaises. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles ont le droit de faire un sport d'hiver. J'ai eu la chance d'être leur premier prof de snowboard. Donc, elles étaient en collant, en robe, sans gants, avec des snowboards trop grands qu'on leur avait amenés. Voilà, c'est vraiment des moments incroyables. Et on s'était calé sur l'événement de snowboard au Pakistan, sur la station de Malam Jabba. Donc, c'était le championnat pakistanais international de snowboard, donc compétition sérieuse là-bas.
C'est quoi le niveau, sérieusement?
Pourquoi international? Il y avait les Pakistanais, un Belge, on ne savait pas ce qu'il foutait là.
C'est un pays
l'équipe
montagnard.
L'équipe afghane de snowboard, okay. Et nous. Et on se retrouve en même temps que l'équipe afghane de snowboard à l'hôtel. On était logés dans le même hôtel. Et tous les soirs... je buvais le thé avec ces jeunes. Enfin, le premier jour, ils voient un pro snowboarder, donc ils vont tout de suite vers moi. C'est la première fois qu'ils rencontraient un pro snowboarder. Donc voilà, très curieux. Ah, il parlait pas très bien anglais, mais voilà. On communique et il m'explique, voilà, on est l'équipe afghane de snowboard, l'officiel. On a 15 snowboards dans le pays. Donc moi, j'ai 15 snowboards personnellement à l'année. Eux, ils en ont 15 dans le pays. Qu'ils ont importé d'Iran. Ils s'entraînent sur les dunes. Ils font du snowboard au bord des routes parce qu'il n'y a pas de station. Et de ça, ils ont créé l'équipe officielle d'Afghanistan. Et là, ils sont là pour la compétition de l'année au Pakistan pour en découdre. Quoi. Donc moi, j'hallucine. Tu vois, je suis là, waouh. Et les mecs, plein d'espoir, des jeunes de, à l'époque, 18 ans, à fond. Il y avait plusieurs femmes. Voilà, et tous vraiment plein d'espoir, super sympa, curieux. Et voilà, curieux, mais moi j'ai l'impression d'être Shaun White.
À leurs yeux.
J'ai l'impression d'être Shaun White au Semnose, au Tudanci. Enfin, tu vois, c'était complètement fou. Dès que je faisais une petite figure pour moi, tout de suite, c'était waouh, incroyable, etc. Donc c'était vraiment un bon moment et on tisse des liens sur cette semaine. Vraiment, on s'entend bien. Au point que le dernier soir, ils me demandent de leur faire une petite conférence sur comment progresser en snowboard. Voilà, qu'ils aient mon avis sur comment organiser le team, leurs entraînements, etc. Donc voilà, on prend un temps de discussion qui était sympa. On prend une photo et je leur dis, voilà, c'est pas la dernière fois qu'on se voit. L'année prochaine, je viens en Afghanistan documenter votre histoire pour ma web série Tripoulette. Parce que je me dis, là, humainement, ce serait incroyable de les suivre. Et c'est là que, quelques mois après, arrive le début de l'histoire la plus folle de ma vie. Donc là, on est en 2021, janvier 2021. Et en août, les talibans arrivent au pouvoir. Donc eux, ces jeunes n'ont jamais vécu sous régime taliban. Parce que ils ont 18 ans. Et soudainement, j'étais à Paris en vacances, tranquille, 8h du mat, début août, pas de snowboard, petit voyage culturel à Paris. Et là, je reçois un appel sur mon portable, numéro inconnu, mais pays Afghanistan. Bon, je vais quand même le prendre celui-là, ça n'a pas l'air banal. Je décroche. Salut Victor, tu te souviens, c'est Najib, le directeur de la fédération... Afghan de snowboard, oui, bah, je me souviens, on organisait le voyage pour cet hiver, ouais. Je sais pas par rapport au voyage, mais là, on vient de recevoir des lettres de menaces de mort de la part des talibans. On vient tous d'être menacés de mort pour avoir fait du snowboard et pour avoir soutenu l'équité homme-femme via le snowboard. Il faut que tu nous aides. Et donc, moi, je sais pas quoi lui dire, hein. Je lui ai répondu, tu crois que je suis Macron, quoi. Et donc, j'avais suivi un petit peu l'actualité. On savait qu'il y avait 3 millions d'Afghans qui étaient à risque et qui souhaitaient partir du pays. Donc, voilà, en pleine crise. Moi, à Paris, je me dis, bon, bah, écoute, mon ami, je vais essayer de t'aider. Je te garantis rien, mais je vais essayer. On raccroche. Donc là, je me retrouve par hasard à quelques kilomètres de l'ambassade d'Afghanistan en France. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon skateboard, je vais à l'ambassade, je me pointe devant les grilles, plein de gens, l'ambassade fermée, le gros bordel. Voilà, donc ça, c'était un premier échec. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais mettre un message sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai posté une photo en disant soutenez mes amis, si vous avez des contacts pour m'aider à les faire sortir d'Afghanistan, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai aussi posté sur Twitter en taguant des ambassadeurs, l'ambassadeur de France en Afghanistan. Enfin, voilà, lui, il avait des millions de dossiers à gérer, mais bon, je tentais des bouteilles à la mer comme ça, innocemment. Je suis quelqu'un de très positif en général.
Mais il faut en faire plein jusqu'à ce qu'on ait une qui marche. Tu
voilà.
Vois.
Et donc, grosse erreur, je poste cette photo sur les réseaux sociaux en affichant leur visage sur les réseaux sociaux. Mais en faisant cette erreur, il y a environ 5-6 personnes qui m'ont contacté. Et on a constitué l'association Snowboarders of Solidarity avec Jérôme Tanon, un ami photographe de snowboard, Laurent Pordier, qui fait partie de la Fédération de snowboard, et ensuite deux avocates américaines qu'on appelle leurs anges gardiens. On appelle les anges. Parce que voilà, ces personnes ont donné énormément pour ces jeunes, alors qu'elles ne les connaissaient pas. Jamais vu, rien. Mais voilà, elles voulaient s'impliquer dans cette cause. Elles ont énormément donné. Et donc à partir de là, on a aidé toute l'équipe. Dans un premier temps, 8 qui ont été envoyés dans les premiers avions au plein milieu de la crise de l'aéroport de Kaboul. On se souvient tous des Afghans qui s'attachent à l'avion pour essayer de sortir du pays et qui malheureusement tombent de l'avion. Ça, je pense qu'on s'en souvient bien, ces images, malheureusement. C'est malheureusement ce qu'on retient des médias. Et donc, voilà, on en a fait sortir 8 durant cette période. Là, à chaque fois, c'était des missions. Hein. Enfin, on vivait dans un film de science-fiction. Malheureusement, j'avais l'impression de vivre un film de science-fiction. Mais voilà, à chaque fois, on a réussi à les exfiltrer. Donc, 8 dans un premier temps. Ensuite, les Américains sont partis de l'aéroport de Kaboul. Donc là, les portes du pays se sont refermées.
Mais comment tu fais pour les faire sortir, d'ailleurs? J'imagine que tu n'as peut-être pas toutes les rouages de ce qui s'est passé, mais ne serait-ce sur place ou quoi. Mais
honnêtement, ces avocates américaines étaient ultra connectées. Alors, je ne sais pas comment elles sont tombées sur moi comme ça, mais ultra connectées, avec des gros réseaux aux États-Unis, et de fil en aiguille, elles ont réussi, d'un contact à un autre, à les faire sortir.
Ok.
Voilà. C'est pareil, elles ont levé des fonds et elles ont énormément aidé l'équipe.
Ouf, ok.
Ouais, vraiment fou. Mais des fois, voilà, il y avait une explosion d'un checkpoint à un autre. Il fallait payer du bakchiche aux talibans pour pouvoir accéder à l'aéroport. Enfin, à chaque fois, c'était des missions improbables qu'on suivait via Telegram. Et là, j'avoue que moi, les Américaines, elles étaient à fond, elles étaient parties. Ben, tant mieux. Hein. Mais ouais, c'était vraiment fou. Et ensuite, pour les 8 autres, ça a pris plus de temps. Il y a eu des échecs, notamment par voie terrestre, où voilà, ils ont essayé de sortir par voie terrestre. Ça a échoué parce qu'il manquait des documents. Finalement, ils sont sortis par voie aérienne. Là, ils sont restés un an au Pakistan, bloqués. On nous avait promis des visas canadiens. Et finalement, ils sont jamais arrivés. Jusqu'à ce que je fasse les démarches pour qu'ils arrivent en France. Et donc ça, c'était pas simple. Hein. En même temps qu'une carrière de pro snowboarder, des études, des projets immobiliers, il y a toutes les deux semaines des amis afghans qui disent « Alors, t'en es où pour les visas? Tu penses que c'est bon ou pas? Parce que là, on est en train de crever au Pakistan. Qu'est-ce que t'en penses ?»« Oui, je m'en occupe. Je fais ce que je peux. » Et voilà, bref, de fil en aiguille. Et encore une fois, de contact en contact, on a réussi à avoir des visas pour les faire venir en France. Et ça, c'est vraiment une histoire folle. Et c'est grâce à un podcast.
Ok.
Et voilà, il y a une jeune qui a écouté un podcast des baladeurs où elle était au bord de sa piscine. Elle écoute ce podcast et elle dit « Maman, je crois que tu fais le taf qui les aiderait. »
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
T'es avocate spécialisée dans les demandes d'asile. Je crois que tu pourrais les aider. Et là, grâce à cette personne que j'ai rencontrée par la suite, elle a aidé l'équipe. Ça a débloqué les démarches pour les visas. Elle a mis énormément de pression sur le gouvernement français. Et deux semaines après, on recevait un mail. Bonjour, votre demande a été acceptée. Et là, ils m'appellent, les Afghans. Victor, c'est bon. Par contre, il faut qu'on arrive dans les 12 prochains jours, sinon ça marche pas. Là, il fallait leur trouver des billets d'avion. Et voilà, il fallait arriver leur arriver en France, quoi. Mmh. Donc j'appelle ma mère. Bon, ma maman, on n'a pas d'option de logement là. Est-ce que tu peux les héberger au début, c'était ça. Et on a passé un moment incroyable dans le sens où on a été les chercher avec le van de ma famille, un van 9 places, et voilà, Annecy-Paris en van pour aller les chercher à l'aéroport de Paris. Et, je dirais, les portes de leur nouvelle vie se sont ouvertes. Et là, c'était le début de leur nouvelle vie, de leur intégration. Mais ouais, histoire incroyable qui a duré presque 2 ans. Où on a réussi à leur sauver la vie. Et ça, ça m'est tombé dessus. Cette mission, elle m'est tombée dessus comme ça. Et c'était, c'est clairement la chose la plus forte qui m'est arrivée en relation avec le snowboard, quoi. Ouais. Et là, ça, on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que cette histoire, elle est folle. Je la fais vraiment en condensé. Mais ouais, histoire super intense qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de cœur. Ouais. Et qui, par miracle, s'est soldée par une victoire.
Ouais. Ouais, et puis j'imagine, il doit y avoir des jours où aussi tu te dis, mais bordel, dans quoi j'ai mis le doigt, quoi. Tu vois, parce que tu te dis, peut-être que ça peut trop tomber dessus, que si, si un jour t'as la flemme de passer ce coup de fil qui est le 15e que tu passes de la semaine ou je sais pas, mais et qui aboutit à rien et que 2 jours plus tard t'apprends une mauvaise nouvelle, tu vois,
c'était clairement des bouteilles à la mer en même temps, enfin
tout le temps, ouais.
C'était dur, quoi, enfin c'était un peu une mission impossible qui s'est soldée par une victoire, et ça c'est vraiment improbable. Et j'en suis fier, quoi, parce que c'était pas gagné.
Ouais, pas gagné. Tu m'étonnes. Ouais. Et ils sont où, là, aujourd'hui?
Savoir que c'est des jeunes qui ont maintenant 20 ans. Ils sont tout quittés, hein, derrière eux. C'est-à-dire qu'ils ont plus de famille, plus d'amis, plus d'études, pas d'argent. Et donc, ils ont recommencé leur vie en France. Là, maintenant, ils apprennent le français déjà. Il y en a quelques-uns qui sont pas loin d'être bilingues, et ça fait plaisir. En un an, ils ont appris le français. C'est comme si on te demandait d'apprendre le perse demain d'urgence.
Bon courage.
Ça serait chaud. Ouais. En tout cas, respect à eux. Ils ont demandé l'asile en France et ils ont eu donc leur titre de séjour pour une durée de 10 ans. Ça a fonctionné. Et merci la France d'accepter nos amis afghans, comme ça, en tout cas mes amis, parce que ouais, je suis vraiment fier de la France d'avoir accepté. C'est pas gagné d'accepter des réfugiés. On le voit, hein, sur le processus d'intégration, c'est pas simple. Mais maintenant, on s'y connaît en France et c'est bien fait. Et voilà, ils travaillent pour la plupart en restauration actuellement, au Roster. Donc, c'est la chaîne de restaurant de burgers qui me sponsorise.
Okay.
Donc, trop cool. Ils bossent là-bas depuis maintenant bien 8 mois. Donc, ils gagnent un petit peu d'argent, ils aident un peu leur famille, ils ont fait des activités ensemble. La grosse victoire, ça a été aussi de faire du snowboard ensemble. On s'était promis de faire du snowboard ensemble en Afghanistan. Et en décembre dernier, on a refait du snowboard ici, dans les Alpes, ensemble, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était une belle victoire.
Bravo.
Ben, merci.
Sacré story. Franchement, ça s'invente pas, quoi, ce genre d'histoire. J'en ai des frissons, tu vois.
Ce qui est génial, c'est que maintenant, c'est ma famille, quoi. Pour certains, c'est mes frères, c'est mes enfants. Nassima, Mouchawar, Sourouche, c'est vraiment des proches, quoi. Ils viennent à Noël avec ma famille. On va en vacances pour faire du surf ensemble. Enfin, voilà, on essaie de faire des trucs cool, quoi. Pour les intégrer du mieux qu'on le peut et leur offrir un peu de joie dans cette vie qui est, ou pour eux, si on leur offre la plus belle vie, mais à la fois, quand ils regardent derrière et leur famille qui galère, c'est dur. Donc voilà, c'est des situations qui sont pas simples, quoi.
Ouais, puis j'imagine qu'ils doivent aussi se sentir coupables un peu d'avoir mis probablement leur famille aussi en difficulté, parce que c'est souvent dans les dictatures très violentes comme ça, t'as aussi si le fiston il a fait une connerie, les parents ils allaient être sanctionnés, les grands-parents allaient être sanctionnés aussi.
Il y a un moment où c'était vraiment délicat sur les réseaux sociaux, où on se posait énormément de questions. Ils nous ont dit, voilà, c'était à eux de juger. À partir du moment où ils ont pris la décision de sortir du pays et d'aller au Pakistan, ils savaient que voilà, ils mettaient potentiellement leur famille à risque, mais ils mettaient surtout une croix sur leur passé, quoi.
Ok. Ouais. Donc là, à moins d'un changement de régime politique,
Et c'est ça qui est dur, c'est que à moins qu'un pays ou plusieurs pays occidentaux se remettent sur la cause afghane, voilà, ça a été fait, hein, les Américains, ils ont beaucoup donné, ben ça changera pas, quoi. Et les conditions sont de plus en plus dures, notamment pour les femmes. Et donc c'est assez triste de le voir via nos amis qui, voilà, au pays galère. Donc voilà, ils aident comme ils le peuvent leur famille à distance, quoi.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette culture? Tu vois, moi j'ai eu un... Enfin, l'Afghanistan, je trouve que c'est un pays où... dont on parle très mal ou dont on a une très mauvaise, tu vois, enfin, on a un très mauvais savoir, je pense, sur le pays. Et moi, mon premier choc, je me souviens, c'est, je pense que je devais avoir 20 ans, je prenais l'avion pour aller en Asie et à un moment... je regarde par la fenêtre et je me dis, mais waouh, c'est quoi ce pays trop beau, quoi. Tu sais, t'es dans l'avion, il n'y a pas un seul nuage, t'es à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, mais tu te dis, waouh, c'est incroyable ce pays, comment il est beau, vu du ciel, quoi. Et du coup, je regarde sur le petit écran de bord et là, je vois, ouais, vous êtes au-dessus de l'Afghanistan. Je me dis, non, c'est pas possible, je m'a jamais montré ça, moi, à la télé. Et ça a été ce premier... ça a été le premier électrochoc, tu vois, de me dire, ok... il y a énormément de neige, il y a des montagnes qui sont sublimes, c'est des espèces de déserts d'une beauté que nous on connaît pas, tu vois, et complètement différent de ce qu'on de ce qu'on connaît. Et du coup après je me suis vachement informé sur cette culture et je voulais te demander, toi, c'est quoi le qu'est-ce qui t'a plu, toi, ou qu'est-ce qui t'a étonné, tiens, dans cette culture et qui t'a agréablement surpris?
Dans cette culture, je sais pas trop, mais dans ces jeunes, c'est leur cœur et leur passion, quoi. Vraiment, ils avaient les yeux qui pétillaient avec leur projet de skate, de snowboard, et ils avaient vraiment un grand cœur, tous plein d'espoir pour développer leur sport. Et ça, c'était vraiment, vraiment beau à voir. L'Afghanistan, j'avais prévu d'y aller et de visiter, donc j'aurais bien aimé en apprendre plus. Très bon cuisinier. En tout cas, ils nous font des bons plats.
Ok, ils cuisinent super bien. Ok. Mais du coup, si on veut aller goûter leur burger, là, c'est où? C'est sur Annecy.
Ouais, non. Ils font pas encore leur burger afghan.
Bien sûr. Il y aura peut-être une recette, on sait pas. je lance l'idée, hein. Je dis rien. Ok, dingue cette histoire. Ce qui est beau, je trouve, c'est que ça ouvre aussi les yeux, tu vois, sur la situation telle qu'elle est. Ça permet aussi de responsabiliser un petit peu les gens sur effectivement.
Ce que je retiens vraiment de cette histoire, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ces deux anges-là qui ont rejoint cette cause, qui ont mis leur vie de côté pour aider ces jeunes, sans les connaître. Et vraiment, il y a dans ce projet-là, pour les aider, il y a vraiment plein de belles personnes que j'ai vues donner de leur temps, leur argent pour aider ces jeunes. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est quand même que il y a plein de choses tristes sur cette planète, mais il y a quand même vraiment des belles personnes. Et avec de la solidarité, ça peut amener à vraiment de belles choses. Et j'encourage les gens. Moi, je suis personne, quoi. Je suis personne pour réussir à faire quelque chose comme ça. Jamais, si tu m'avais dit il y a 3 ans, tu vas aider potentiellement des vies et tes jeunes potes, je t'aurais jamais cru. Mais voilà, avec un peu d'huile de coude, quelques contacts, ça peut marcher. Donc voilà, pour les écouteurs, n'hésitez pas à vous insérer dans des causes qui vous tiennent à cœur pour essayer au moins, ça vaut le détour, parce que moi, ça a clairement changé ma vie, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
Vraiment mon ouverture vers l'autre, la vision... La vision de l'entraide, la solidarité, ma vision aussi de l'intégration des réfugiés. Je pense que ça, c'est un thème un peu plus politique, mais c'est pas si simple. C'est pas tout rose.
Bien sûr.
Voilà, d'intégrer quelqu'un dans son pays, il y a quand même pas mal d'étapes. Et pour le faire en quantité, je pense que c'est pas simple. Il faut vraiment passer par de la qualité.
Ouais. Ouais, puis il y a beaucoup de messages aussi erronés sur justement sur l'immigration. Moi, j'ai un copain qui a monté une boîte qui s'appelle Each One et qui accompagne, tu vois, des réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile, et en gros à s'insérer, tu vois, à se former. Et en gros, lui, ce qu'il me disait, c'est que quand on entend réfugiés politiques ou demandeurs d'asile, on s'attend souvent à des gens qui sont sous-diplômés ou qui n'ont pas fait d'études. Et en fait, typiquement dans les pays comme l'Afghanistan, c'est les élites qui sont chassées le plus vite possible. Et donc souvent, ce sont des médecins, des gens qui bossent dans les institutions politiques, des avocats, des gens lettrés, en fait, tu vois, des gens érudits. Et en fait, on se rend pas compte, quoi, que ça peut toucher tout le monde, quoi. C'est pas parce que tu fais un bac plus 5 à l'autre bout du monde que
t'es... Et moi, c'est ce qui m'a touché, c'est que ces jeunes, ils étaient snowboarders, comme moi, et passionnés par le snowboard. Eux, ils risquaient leur vie à faire du snowboard, et c'était vraiment des avant-gardistes dans leur pays, notamment pour les femmes. Elles étaient révolutionnaires dans leur pays. Une fille comme Nassima, elle faisait du running, elle faisait de l'art, du snowboard. Et elle était à risque pour ses passions, quoi.
Ouais.
Et c'est pour rejoindre ton sujet, c'est que eux, le plateau du jeu, il s'est retourné alors que tout allait très bien et qu'ils vivaient à l'occidental. Ils avaient des moyens, ils étaient cultivés, ils avaient des potes, des passions. Et du jour au lendemain, le plateau s'est retourné et ils étaient en galère.
Ouais.
Et ils sont encore en galère. Et ça, c'est triste qu'en 2023, pour certaines personnes, ça se passe comme ça.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est chaud.
Et donc, voilà, le but maintenant avec Snowboarders de Solidarity, c'est de leur apporter du fun, et notamment par le snowboard. Et donc, voilà, on fait un maximum d'activités ensemble, on rigole.
Et
on espère que ça leur apporte un peu de sourire. En tout cas, il y a des sourires déjà.
Ok. Est-ce que du coup, tu les invites à ton deuxième événement, enfin ton deuxième succès, on va dire, j'ai envie de l'appeler comme ça, pour les Safety Shred Day, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de les inviter et de leur montrer ça?
Ouais. Alors, l'édition 2022, on avait récolté des fonds pour les aider. Et édition 2023, ils étaient bénévoles aux Safety Shred Days.
Ok.
Voilà. Donc tous, ils sont venus aider et se former aux Safety Shred Days.
Trop bien.
Voilà.
Et pour 2024, qu'est-ce qu'il y avait prévu?
Alors, il y en a quelques-uns qui reviennent en tant que bénévoles et d'autres qui seront là en tant que participants. Simplement.
Ok. Trop cool.
Voilà.
Incroyable.
Mais l'année dernière, c'était marrant. On avait organisé donc on fait une course à la fin de l'événement et on avait donc organisé les championnats afghans de snowboard 2023 à La Rosière.
C'est trop bien.
Ouais. Ouais. Non, on rigole bien en montagne.
Ouais, c'est des histoires qui s'inventent. Voilà, pas.
Pour pour ceux qui nous écoutent, les Safety Shred Days, donc c'est des événements de formation au secours en montagne. Donc on se forme à la gestion des risques et au secours en avalanche.
Pourquoi tu as créé ça? Est-ce que c'est un besoin? Ça part d'une histoire personnelle?
Ouais. Donc moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je traîne dans les montagnes. Et donc, au début, comme vous le savez, donc je suis parti des Alpes du Sud sans trop de formation. Hein, je faisais de la poudreuse comme tout le monde. Voilà, parce que c'est trop bon. Hein. On est tous des accros à cette neige poudreuse. Et voilà, durant ma carrière, j'ai eu quand même pas mal de pépins dans des avalanches. Notamment en 2014, première fois que je vais en Alaska, donc sur un shooting pro avec Absinthe Film, donc la production légendaire, notamment en Alaska. Et lors de ma toute première descente, alors que ça faisait 10 jours qu'on était bloqué dans le mauvais temps, hop, il fait beau, je me retrouve en haut de la montagne. Et là, c'est l'heure d'y aller, hop, je fais 3 virages. Et toute la face craque. Et je me retrouve dans une avalanche d'une taille quand même assez grosse et impossible de m'en sortir. J'essaye de la doubler, ça ne marche pas. Et là, l'avalanche est dans mon dos et me recouvre. Okay. Donc, je passe dedans, je tire mon airbag et je me retrouve voilà, à la surface de l'avalanche. Et donc ça a été première expérience plutôt négative, assez marquante. Je me suis pas arrêté là sur Strip, mais voilà, première prise de conscience.
C'est que tu te pètes un truc,
Non, il se passe rien. Juste attention Victor, warning, tu as eu chaud. Voilà, okay. Parce que l'avalanche aurait pu me pousser dans une crevasse, j'aurais pu finir enterré dans un glacier. Voilà, ça a été
Attends, tu peux nous décrire un peu, parce que, excuse-moi, je suis jamais tombé dans une avalanche, moi, du haut de ma tour parisienne, là. Mais je sais pas, ça dure combien de temps? T'es tourné, tu percutes plein de trucs, c'est quoi? C'est une fraction de seconde?
C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la descente, savoir si il y a des cailloux, de la glace, des arbres sur la trajectoire de l'avalanche, hein, parce que c'est pas toi qui choisis la trajectoire. Voilà, la taille de l'avalanche, le type de neige, il y a quand même pas mal de facteurs qui vont faire que les scénarios vont être différents. Moi, c'était une avalanche de neige très poudreuse, donc qui peut potentiellement t'étouffer, mais qui va pas te broyer, je dirais. Et j'avais choisi quand même pour ma première descente en Alaska une ligne assez facile, entre guillemets. Voilà. Donc assez dégagée. Donc je m'en sors pas trop mal. Mais juste, c'est quand même traumatisant de se retrouver dans une grosse avalanche. Et je sais pas si on pourra montrer les vidéos de l'avalanche, mais c'est quand même assez, assez gros, assez marquant, quoi.
Ouais. C'est quoi, c'est 10 secondes, 15 secondes où tu te fais brinque-baller dans tous les sens
ou... Là, ça doit être 6-7 secondes, mais c'est bien assez. Hein.
Ouais, j'imagine.
Et par chance, donc maintenant, on a des systèmes airbag, donc des coussins d'air qu'on déclenche.
C'est à toi de le déclencher.
À la surface de l'avalanche, ouais.
Ouais,
okay. Donc là, je l'ai déclenché, j'ai réussi à rester à la surface. Potentiellement, ça m'a aidé à rester à la surface. Et je m'en sors bien. Donc ça, c'est première...
Wow.
Première péripétie avalanche. Deuxième péripétie avalanche. Je me retrouve à Haines en Alaska, donc le même spot, avec une autre équipe de tournage. Et là, moi, je me reprends une petite avalanche dessus. Donc, deuxième petit warning, mais surtout, il y a un ami à moi qui se fait prendre dans une avalanche. Et il faut savoir que là, je parle d'avalanche comme ça, mais on est quand même très encadré. C'est-à-dire qu'on est formé, on est avec des guides de haute montagne, avec des hélicoptères sur place. On fait pas ça n'importe comment.
Ouais.
Mais quand même...
On vous prévient avant le matin, vous êtes briefé de...
On est tous briefés, mais on est là pour prendre des risques. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour pousser notre niveau en montagne. On est conscient des risques, mais voilà, on sait que à partir du moment où tu montes dans l'hélico et que tu vas pousser ton niveau dans des montagnes comme l'Alaska, bah... Il y a des conséquences potentielles. Voilà, petit rappel. Et bref, il y a un ami qui, sans faire d'erreur, Il s'est retrouvé dans une avalanche assez grosse. Et quand je dis sans faire d'erreur, c'est qu'il était à la sortie de l'hélicoptère en train de prendre son sac et le poids de l'hélicoptère a appuyé sur de la neige, enfin sur une espèce de corniche qui était invisible, et il est tombé de... Enfin, l'hélicoptère a déclenché l'avalanche et lui, il n'avait même pas sa planche au pied, il est tombé dans l'avalanche. Donc ouais. Vraiment un accident un peu tout con, alors qu'ils avaient fait déjà la rotation plusieurs fois. C'était vraiment imprévisible. Mmh. Et donc là, par contre, lui, il se retrouve sous l'avalanche, à 1,50 m de profond. Donc là, on est 10 snowboarders formés, parce qu'on partageait entre guillemets le même hélicoptère et sur deux montagnes différentes. Donc on a tous été appelés au même endroit. Et là, ça a été beaucoup plus chaud. On était 10 pro snowboarders formés, des guides, un hélico sur place, et on l'a sorti en 5-6 minutes de la neige. Et là, c'est un ami du Team Salomon avec qui j'avais passé tout l'été. Et là, de voir son pote violet, inconscient, à la limite de perdre la vie, ça, c'est un moment où je me suis dit, waouh. Mmh. Là, on était dans les meilleures conditions pour l'aider. Il avait fait aucune connerie. Là, c'est chaud. Vraiment. Et là, lui, c'est un gros gaillard. Il s'en est bien sorti, mais on serait... Tout le monde ne serait pas sorti de ce scénario sain et sauf. Et donc, suite à ça, là, j'ai commencé un peu à méditer, quoi.
Ouais, tu
m'étonnes. Et là, je me suis dit, waouh, s'il arrive la même avalanche n'importe où dans les Alpes, j'ai pas l'impression qu'on sache bien utiliser le matériel, ou en tout cas que mes potes qui ne sont pas pros sachent bien utiliser le matériel, ou qu'ils aient le matériel. Et donc là,
Tu te rends compte dans l'équipe qui était avec toi que peut-être t'étais pas le plus compétent et que
nous,
les Américains qui étaient là étaient
nous,
plus.
Nous on était bien. Mais là, j'ai vu qu'il fallait être bien plus exigeant et bien plus formé. Et là, on était dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on était tous formés, on était tous au top. Et là, c'était vraiment, on n'était pas loin de la correctionnelle. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, waouh. S'il arrive la même avalanche dans les Alpes, et il y en a des avalanches dans les Alpes, et il y a tous les scénarios pour que ça se produise, il va y avoir des pépins dans notre communauté. Freeride, hein. Je parle ski, snowboard. Donc c'est là que Robin Desbois est arrivé, je dirais.
Et j'ai le bonnet pour mettre l'autre casquette.
Et donc c'est là que j'ai été voir mes sponsors et je leur ai dit voilà, on va faire un événement où on va se rassembler pour se former. Vous me donnez une petite enveloppe et on va organiser ça. Et c'est de là qu'est née la première édition des Safety Shred Days, via cette idée, ce besoin qu'on avait. C'est-à-dire qu'il existe et il existait des formations de secours en avalanche, mais pas adaptées à notre cible, jeune, freeride, un peu à la cool. C'était surtout fait pour les personnes qui font du ski de rando, un peu plus âgées, qui ont un peu plus de budget. Et là, le but, c'était de proposer, essayer de proposer des formations pour tous, ski, snowboard, dans la bonne ambiance, donc adapté aux jeunes, et surtout un tarif abordable pour tous les budgets.
Ok.
Et donc, c'est un peu là qu'on en est arrivé à faire les Safety Shred Days. Et donc, maintenant, c'est le rassemblement annuel de tous les freeriders. Et on fait 3 éditions cette année. Donc, une dans les Pyrénées en collaboration avec mon pote Mathieu Crépel.
OK.
Une à La Rosière. Donc, ça, c'est en mon nom. Mmh. Et une avec Mathieu Cher à Thion, en Suisse.
En Suisse. OK. Voilà. Mmh.
Et donc, maintenant, on forme au moins 400 personnes chaque année. Des jeunes de 8 ans et des pros. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour vraiment... tous les niveaux, tous ceux qui veulent se mettre au hors-piste, dans le but de ne jamais déclencher une avalanche. Et s'il y a une avalanche, de savoir comment secourir ses potes, quoi.
Ok. Est-ce que tu peux nous faire, là, en 3-4 minutes, genre une espèce de mini masterclass ? Tu vois, alors j'imagine, tu vois, qu'il y a plein de choses à voir le jour J.
Que je fasse une masterclass en 4 minutes alors que ça tu vas venir au Safety Shred Days et tu vas vite comprendre ça.
Non, mais tu vois, imaginons, tu vois, là on parle, il y a beaucoup de trailers, tu vois, qui nous écoutent notamment, il y a beaucoup de passionnés de montagne et pas forcément des gens qui prennent des risques comme vous, mais tu vois, si on doit leur transmettre un petit truc, comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens d'y aller, et est-ce que, je sais pas, il y a 2-3 petites choses qu'il faut absolument savoir. Les premiers trucs qu'il faut absolument savoir.
Okay.
Allez, c'est le moment où les gens pourront dire qu'ils vont faire les malins à un dîner, tu vois, un dîner un peu mondain. Dire « Ouais, j'ai appris de Victor Davier, qui est un des meilleurs snowboarders français. Si tu es dans une avalanche, voici ce qu'il faut faire, tu vois. Okay. » si on se dit ça, tu vois, c'est... est-ce que, je sais pas, il y a des petits trucs un peu contre-intuitifs. Okay. J'imagine que vous, dans la pratique, il y a plein de choses qu'il faut avoir. Vous avez du matos de ouf aussi. Ouais. Je sais que j'avais rencontré la directrice marketing de Mammouth aussi, tu vois. Donc, on a parlé un petit peu de leurs objets, de tout ce qu'ils font. Mais si on a envie de faire le malin en soirée, qu'est-ce qu'il faut raconter?
Si on a envie de faire le malin en soirée, déjà, c'est un sujet un peu intimidant. On parle d'avalanche de mort, mais, les Set Shot Days, c'est justement pour sortir en hors-piste sereinement et en pleine conscience. Mmh. Donc, que t'aies de l'expérience ou pas, t'es le bienvenu. Et c'est encore mieux si t'en as pas, parce que tu vas te retrouver avec les meilleurs qui se forment en même temps que toi. Il faut savoir que la sécurité en montagne, c'est pas comme le permis de conduire. Eh, je l'ai eu en 92, c'est bon, je suis bon. Non, c'est chaque année, on se forme pour être le meilleur possible et acquérir vraiment des connaissances qui deviennent des réflexes. Ok, il y a un pépin, on agit, je dirais, médicalement avec une checklist, boum, 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 et on aide et on potentiellement on sauve des vies, quoi. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Ensuite, notre slogan, et que je trouve qu'il marche pas mal, c'est « The mountain has no brain, use your own ». Voilà, tout est dans ton cerveau, quoi. Et la base, c'est éviter les conneries.
Bien sûr.
On est tous accros à cette neige poudreuse. Enfin, moi le premier. Je pense que quand je fais la poudreuse, je rentre, s'il y a vraiment des bonnes conditions, je rentre en état de transe. Tu vois, je pense que c'est comme ça que je te le décrirais. Tellement, cette passion ne passe pas et c'est tellement bon de surfer cette poudreuse que je suis vraiment en transe, quoi. Et on est pas mal à être comme ça. Voilà. Donc, on est quand même un peu énervé sur la poudreuse. Et voilà, il faut éviter, malgré toutes ces belles émotions, les bêtises. Et donc, ça va être la partie gestion des risques. C'est-à-dire que s'il y a avalanche, c'est que t'as fait des bêtises. Ça, c'est normalement. Soit on t'a déclenché dessus une avalanche, et dans ce cas-là, t'étais mal placé, t'as pas anticipé l'avalanche. Soit tu as commencé à... t'as déclenché une avalanche, et dans ces cas-là, t'as pas su décrypter tous les signaux. Donc vraiment, ce qui est important, c'est à la base de jamais se retrouver en situation d'avalanche.
Ouais.
Et donc ça, c'est, je pense, c'est la première partie où on apprend donc comment se déclenche une avalanche, quels sont les signaux pour les repérer, et ensuite quel est le matos à avoir aussi, quoi.
Ok.
Donc voilà, sur les petits tips, là, je dirais faire attention à l'inclinaison de la pente. C'est-à-dire qu'en dessous de 30 degrés, une avalanche ne se déclenche pas.
Ok.
Ensuite...
je serai le malin dès ce soir.
Ensuite, voilà, savoir repérer les signaux météo. La neige fraîche, le vent, la température. Ça, ça va vraiment influencer sur les avalanches.
S'il fait chaud... Moi, j'avais entendu dire ça. C'est quoi, une après-midi où il fait très chaud, il a neigé la veille Ça peut, du coup, il peut y avoir un écart de température entre la couche profonde et la couche de surface et ça peut faciliter.
Exactement. Pareil pour le vent. Si la neige a été déplacée par le vent, ça fait des plaques à vent, etc. Les plaques à vent qui sont les avalanches les plus meurtrières et les plus courantes.
OK.
Voilà. Donc, on apprend déjà tout ça. Et ensuite, que ce soit toi qui es donc déclenché une avalanche, ton pote ou quelqu'un qui passe dans le coin, hop, une personne a fait une connerie, avalanche. Et des fois, les signaux sont délicats à voir. C'est-à-dire qu'un surfeur de grosses vagues, il va à Nazaré, il sait qu'il va prendre des risques et qu'il y a une avalanche d'eau qui va s'apprêter à surfer. En snowboard ou en ski, les avalanches, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que c'est dans le motoneigeux, c'est invisible. Et donc, il faut apprendre à décrypter ces signaux, à faire des tests aussi du motoneigeux pour voilà, ne pas se retrouver en situation d'avalanche. Et là, il y a quand même une grosse différence, par exemple, avec le surf, c'est que, voilà, un free surfer qui fait du surf de gros, il voit son avalanche. Nous, on la voit pas forcément, quoi.
Ouais.
Et si on se retrouve en situation d'avalanche, ce qu'il faut faire, ça, c'est tout un processus. Donner l'alerte. Voilà. On a la chance d'avoir des bons secours dans les Alpes. Donc, t'appelles le 112. Hop. Tu sonnes l'alerte. Ensuite, savoir rechercher avec son DVA. Donc, DVA, c'est nos systèmes. Donc, des petits boîtiers qui sont des détecteurs de victimes en avalanche. C'est super simple. Les enfants de 6 ans ou 7 ans, ils savent l'utiliser, donc je peux le faire. Non, maintenant, c'est vraiment à la pointe de la technologie. Donc, savoir chercher avec ses appareils, trouver le point le plus proche. Ensuite, donc, on apprend à sonder. Donc, on a des longs bâtons télescopiques où on va essayer sous le motoneigeux de détecter la victime, de savoir où elle se trouve. Donc, ça, pareil, il y a des techniques. Ensuite, pelleter d'expérience, ça paraît tout con. Hein. T'as trouvé ton pote avec ton DVA, tu sais qu'il est là à 1m50. 1m50, c'est rien, mais selon la neige, c'est très, très profond.
Okay.
Et là, par exemple, l'expérience en Alaska, la fois que je racontais, on avait vraiment chaud. Il était à 1m50 de profond, on a mis 6 minutes à aller à son visage. Et c'était énorme. Et encore, on était vraiment bon, quoi. Et donc, au-dessus de 15 minutes, les chances de survie sont très faibles. Donc, il faut aller vraiment vite.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, il faut savoir prendre en charge la victime. Une fois qu'on l'a découverte, voilà, prendre en charge la victime.
Parce que de quoi elle souffre? C'est ouais, d'étouffement, de froid, de...
Hypothermie. Étouffement. Et après, il y a des lésions en fonction de l'avalanche, quoi. Si on se fait traîner, voilà, par exemple sur des cailloux, des arbres, des blocs de glace, ça peut être vraiment fatal.
Ok. Et du coup, toi, ta mission, c'est que toutes les personnes qui fassent du freeride en France, en Europe, si possible, soient
en
mesure et formées, pour le faire.
Se fassent plaisir et que tout le monde soit en sécurité. Voilà. Et... diminuer le nombre d'accidents, tout le monde se fasse plaisir. Tout le monde soit formé pour que ce soit tout simplement jamais régulé. Voilà. Ouais, mais... Si tout le monde est sérieux, professionnel, on n'aura pas besoin de réguler le freeride ou quoi que ce soit.
Okay.
Voilà. Et c'est aussi pour montrer que tout le monde est responsable.
Ok. T'as des chiffres sur le nombre d'accidents qu'il peut y avoir en France par an?
Alors, ça va dépendre des années et de l'enneigement.
Ouais. Mais grosso modo, je sais pas, sur les 5-10 dernières années, on est...
Là, j'ai pas les chiffres. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je les ai pas loin, mais...
Non, mais je me rends pas compte. C'est pas forcément les chiffres exacts, tu vois, mais c'est pour avoir une ordre de grandeur, tu vois. Est-ce que c'est 3-4 par an ou est-ce que c'est plutôt 30-40 ou
non,
300?
Non, c'est plutôt...
300-400, j'en sais rien.
30-60 en France.
Ok. Ouais, donc ça fait du monde, quoi.
Ouais.
Et c'est quoi en proportion qui peut être mortel? C'est quoi? C'est 10%, 50%, 70%?
Là, pareil, j'ai pas les chiffres exacts.
Ok.
Désolé,
okay.
Mais
pas, t'inquiète.
Là, c'est des sujets techniques où j'ai pas envie de dire de bêtises.
Ouais, bien sûr. Mais non, mais t'as raison, c'est important. Et puis, faut peut-être pas faire peur. Et peut-être, comme tu l'as dit, il doit y avoir des années beaucoup plus dangereuses que d'autres.
Ah non, mais ça, c'est sûr. Il y a des années où le motoneigeux est beaucoup plus instable que d'autres.
Voilà. Donc, toi, t'y vas plus ces années-là? Maintenant, tu sais les voir et tu vas moins, tu...
Il faut choisir ses spots. C'est-à-dire que tu vas dans des pentes moins raides. Des spots moins dangereux, tout simplement. J'y vais pas moins, j'y vais... Nous, on dit pas aux gens de ne pas y aller. On leur dit, allez-y, avec l'expérience et en pleine connaissance de cause.
Ouais, ok.
Voilà.
Ok.
Ça, c'est vraiment la différence, je dirais.
Ouais. Ouais, non, mais clairement.
Parce qu'on sera les premiers à y aller. Hein. Ouais, surtout, n'y allez pas, on va se gaver.
Non, je vois très bien, mais voilà. Mais t'as raison, tu vois, c'est la meilleure. Et le slogan est trop cool. Mountain has no brain, use your own. C'est.
Ouais.
T'as complètement raison.
Et on passe des super moments. Moi, je fais voilà, j'organise ces événements bénévolement qui prennent un peu d'ampleur, mais voilà, on se marre bien, quoi. On se rassemble tous. Le but, c'est de célébrer le début de la saison avec un petit peu d'intelligence. Et après, voilà, on fait un peu la fête. On fait un bank slalom, donc un slalom chronométré. Et voilà, c'est vraiment bonne ambiance, quoi.
Okay.
Et c'est notre petit rassemblement annuel.
T'attends combien de personnes, là, sur la Rosière, cette année?
Sur la Rosière, on attend environ 250 personnes.
Trop cool. Ouais, trop cool.
Voilà.
Est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un qui n'est pas freerider de venir vous voir et... je sais pas, pour apprendre des choses ou pour est-ce qu'il y a des activités en dehors et tout.
Ouais. Déjà, on a eu des retours assez sympas de pratiquants qui nous disent ah mais c'est trop cool de faire une soirée avec les pros et tout. On pensait que vous étiez vraiment hautain et je me la pète. En fait, vous êtes cool. Et donc voilà, c'est tout le monde est mélangé, tout le monde est au même niveau. Et donc, on se marre bien. Il va y avoir des initiations de ski de rando, de splitboard, si on n'a pas envie de faire le slalom le dimanche. Il y a une conférence où voilà, tout le monde apprend sur les mêmes bancs de l'école. Des présentations de films de freeride, des athlètes qui sont là. Donc, voilà, on a tout un petit programme qui va être sympa. On a même un match de hockey où les pro-riders affrontent l'équipe de la Rosière. L'équipe officielle de la Rosière, et ça, c'est un gros show à chaque fois. Parce que nous, il n'y en a pas beaucoup qui savent patiner, c'est n'importe quoi.
Ok.
Tu vois tous les pro-riders à terre qui essayent de jouer au hockey, c'est toujours assez drôle.
J'imagine.
J'espère que tu seras là pour venir jouer au hockey.
Normalement, ça devrait être bon. Il faut que je regarde là sur un contrat quoi, que j'ai, mais sinon, tu peux compter sur moi. Franchement, on pourrait me marrer.
Quand tu parles de contrat, t'as peur de te faire briser ou?
Non, pour...
je sais que tu parles contre l'assurance.
Généralement, les gens ont pas envie de jouer au hockey sur glace contre moi, tu vois. Je sais pas très bien patiner, mais d'instinct, si tu veux, je peux organiser un match de rugby sur glace. là, ça me va bien aussi, tu vois.
Okay.
Mais moi, pour faire ce genre d'activité et tout, je suis toujours hyper partant. Et en plus, si je peux m'instruire, tu vois, et apprendre des choses, je suis toujours à 2000%. Donc,
trop bon.
Et,
bah, t'es le bien.
Bah, écoute. Bon, on a bien fait le tour. Est-ce que t'as encore juste trois petites minutes pour me présenter un peu ton dernier film, Trip Roulette. Je veux bien la genèse du projet parce que quand même, on est encore tombé dans le noir. Je crois que attends, mais sinon je vais mettre les spots comme ça on sera plus embêté. Mais je pense que ça doit être...
non, tu détectes pas les ondes.
Ça y est.
tes ondes proof.
Mais ouais, juste en quelques minutes pour avoir la genèse de ce projet-là que tu fais. Du coup, tu fais un épisode par an, c'est ça, sur ta web-série, grosso modo, si j'ai cru comprendre un peu la timeline.
Exactement, ouais, je fais un ou deux épisodes par an.
Ok.
Et donc, le concept, vous le verrez, et je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, c'est que je suis présentateur télé, ou en tout cas, je tourne trois roues. Une roue destination, une roue moyen de transport écologique et une roue guest. Et en fonction des choix des roues, on va exécuter l'aventure.
Ok. Voilà. Rien n'est pipé.
Il y en a certaines qui sont un peu influencées, mais à la base, on en a fait quand même pas mal au hasard.
Trop cool.
Et donc voilà, ça c'est le projet que j'ai depuis 4-5 ans, Trip Roulette. Et on se marre bien, ça nous amène à vraiment nous retrouver dans des endroits pas banals. Pas banal, avec un challenge de moyens de transport écologique qui rend le voyage exceptionnel. C'est-à-dire que là, on a quand même été à bord d'une Citroën BX édition millésime jusqu'en Norvège, alors qu'elle roulait à l'huile de friture du Roaster, donc le restaurant de burger qui me sponsorise. Donc j'ai de l'huile illimitée, hein, ils ont 15 restaurants. donc voilà, ça c'était à bord, on était quatre copains, donc Mathieu Crépel, un photographe, un caméraman, on avait pas de place, il y avait que de l'huile dans la voiture parce qu'on avait besoin de pas mal d'huile. Et donc voilà, ça c'était vraiment le gros trip délire qu'on a fait récemment, c'était ça, et le film sort début décembre.
Ok, qu'on peut retrouver dans tous les festivals du film, ou est-ce qu'on pourra le retrouver sur ta chaîne YouTube
Le retrouve sur ma chaîne YouTube dès début décembre, et là on fait des tournées à Lyon, Grenoble, Chamonix, Grésy, donc voilà, là, on a toute une petite tournée prévue.
Bon bah écoute, ça te donne envie, en plus c'est un film qui donne un peu faim, je t'avoue, vu qu'on parle de burgers et de frites, mais je trouve le concept, en tout cas je trouve le concept génial, tu vois, pour cette série, de laisser un peu la place au destin, au hasard, et de tenter. Moi j'ai bien aimé l'épisode que vous avez fait au UK, quoi, y aller en vélo, ça c'est bien bien délire, et vous êtes allé rider du coup dans on dit quoi, un plastic park, snowpark en plastique.
Snowpark en plastique, ouais. Donc ouais, on a traversé tout le sud de l'Angleterre pour l'épisode 5, à vélo, en gravel. Ouf, ça c'était génial. Voyager à vélo, j'ai adoré. Et pour finalité du trip, snowboard à tout prix et faire du snowboard sur une colline en plastique avec un revêtement plastique. Ça, on n'avait jamais fait de snowboard sur ce type de revêtement, et c'était assez fou.
Ok. Eh ben, écoute, c'est trop cool. J'encourage tous les auditeurs et les auditrices qui sont curieux à aller jeter un coup d'œil sur ta chaîne YouTube. Je mettrai les liens. Je crois que l'électricité et la lumière est contre nous et en train de nous dire, les gars, vous êtes trop bavards. Il est l'heure d'aller se coucher. En plus, il est 18h pile poil. Enfin, l'heure d'aller se coucher. L'heure de closer cette interview. Merci infiniment, Victor.
Bah, merci à toi, merci pour l'invitation.
Je me suis régalé, c'est très très cool.
Merci pour la discussion.
Et puis comme on dit par chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas, donc je te dis à très vite.
Yes, à bientôt.
Ciao ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.